Alors, bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Andréane Moreau. Je suis conseillère en communication à l'Orchestre métropolitain et je me trouve aujourd'hui à l'École de musique Vincent d'Indy avec mon collègue Tristan Paré-Morin, qui est musicologue et chef de la programmation à l'Orchestre métropolitain. Alors, on est ici aujourd'hui pour parler de l'ensemble des symphonies de Beethoven. Merci, Tristan.
Bonjour, Andréane. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui pour retracer le parcours historique et musical de Beethoven et de ses symphonies, qui sont des œuvres incontournables du début du 19e siècle.
C'est le cas de le dire, Beethoven, c'est quand même un des compositeurs les plus connus de l'histoire de la musique. Même les gens qui pensent ne pas connaître la musique classique savent reconnaître certaines des mélodies de Beethoven. Ça fait tellement partie de notre mémoire musicale collective. D'après toi, Tristan, qu'est-ce qui fait que l'œuvre de Beethoven a passé à l'histoire à ce point?
Une des qualités qui est le plus souvent associée à la musique de Beethoven, c'est d'être révolutionnaire. C'est un compositeur qui a marqué l'histoire dans la musique parce qu'en plus de bouleverser le langage musical, il a transformé la façon d'écouter la musique. Aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on se penche ensemble sur cette révolution musicale-là pour essayer de comprendre mais pourquoi le nom de Beethoven résonne encore autant aujourd'hui, 200 ans après sa mort.
On peut peut-être commencer par mettre la table du contexte historique dans lequel Beethoven vit. Il arrive à une époque de révolution, peu de temps après la Révolution française quand même. C'est un contexte où l'Europe change énormément, vit des grands bouleversements. Et puis, c'est vrai pour le monde de la musique aussi.
Mais Beethoven a grandi à une époque où le meilleur emploi pour un compositeur, c'était d'être au service de la noblesse, au service de la noblesse qui était riche. Par exemple, Joseph Haydn, un autre compositeur très connu, a travaillé presque toute sa vie pour la famille Esterhazy. Puis c'est pour cette famille-là qu'il a composé et joué une quantité phénoménale de musique, mais sur demande. En dehors de ce système-là, aucun compositeur pouvait vraiment survivre bien longtemps, incluant Mozart également.
C'est particulier parce que ça implique que les compositeurs doivent écrire ce qui est attendu d'eux, ce que leurs mécènes leur demandent de composer, donc ils ne sont pas libres de suivre leur inspiration.
Exactement. Puis Beethoven survit aussi en partie grâce à ce soutien de riches mécènes-là. Mais il va éventuellement réussir à dicter ses propres règles. C'est-à-dire à réussir à composer ce qu'il veut, quand il veut.
Est-ce que cette façon-là de fonctionner en travaillant toujours pour des mécènes, ça influence aussi la quantité de production d'un compositeur? Parce que c'est quand même dans les grandes différences entre Beethoven et Haydn. Beethoven a écrit 9 symphonies, Haydn une centaine.
Oui, parce que Beethoven, il n'a pas besoin de travailler pour un prince qui lui demande constamment de composer un certain type de musique. Mais c'est seulement une partie de la réponse, parce que, en fait, le processus de composition de Beethoven est très laborieux. Ça n'a rien à voir avec la façon d'écrire de la musique pour le divertissement de la noblesse, par exemple. On a des cahiers d'esquisses que Beethoven a laissés qui montrent qu'il y avait une longue réflexion derrière chacune de ses œuvres. Il nous invite à écouter chaque œuvre comme un produit unique, original, qui a été longuement mûri.
C'est pour ça aussi que c'est logique de présenter une intégrale des 9 symphonies de Beethoven. Ça permet de constater son évolution. On s'attarde à chacune des 9 symphonies qui est vraiment unique. C'est pas quelque chose qu'on pourrait dire des symphonies de Haydn. Sur 100, il y en a quand même quelques-unes qui se ressemblent un petit peu. Quand on écoute les 9 de Beethoven, on peut vraiment suivre son émancipation de la première, qui est très, très proche du style classique de Mozart ou Haydn, jusqu'à la 9e, qui est vraiment, qui brise tous les codes, qui est révolutionnaire, puis qui ouvre la voie à tous les compositeurs de l'époque romantique qui vont le suivre.
Oui, en fait, il y a peu de compositeurs dans toute l'histoire de la musique pour qui on peut remarquer une telle évolution, pour ne pas dire révolution, à l'intérieur de juste 2 ou 3 décennies. Mais Beethoven semble aussi nous annoncer cet horizon révolutionnaire à suivre là, dès les premières mesures, dès le premier accord de sa première symphonie.
C'est fou parce que c'est vraiment très instable comme début de symphonie. Là, on dirait qu'on ne sait pas trop où il veut s'en aller avec ça. On est très loin de Mozart ou Haydn.
parce que Beethoven commence la pièce avec un accord secondaire, c'est-à-dire un accord qui n'est pas dans la tonalité principale de l'œuvre à suivre. Donc, Beethoven doit passer plusieurs mesures au début de la pièce à nous rediriger vers cet accord stable-là. Donc, d'une certaine façon, il dérange l'ordre établi, il dérange la hiérarchie des accords qui avaient été établis durant la période classique. Puis, n'oublions pas qu'on est en 1800. L'ordre politique et social européen est en changement. On a la Révolution française, puis ensuite la montée au pouvoir de Napoléon, qui vont bouleverser cet ordre social et politique-là. On va trouver des échos de ce changement-là dans toute la musique de l'époque, et en fait dans tous les arts même.
Ça vaut peut-être la peine ici de parler un petit peu de ces valeurs du siècle des Lumières. C'est une période où les philosophes, les écrivains, les artistes commencent vraiment à s'intéresser plus au peuple, à l'humain. Le divin, la noblesse perdent de leur lustre. On va même jusqu'à remettre en question l'autorité divine des rois, leurs décisions. Vraiment, c'est tout un changement. Puis on le voit dans les arts, on voit des mouvements en politique, on voit des mouvements sociaux, artistiques à l'époque, c'est un petit peu partout dans la société. Comment est-ce que ça influence Beethoven, cette agitation sociale-là du début des années 1800, avec la France qui met fin à la monarchie, qui constitue la toute première république d'Europe? Qu'est-ce qu'il pense, lui, de Napoléon qui vient de prendre le pouvoir?
Beethoven a d'abord été impressionné par la fougue et les idées de Napoléon. Il l'admire. Puis il va s'inspirer de cet esprit révolutionnaire-là pour composer sa troisième symphonie. Si on y porte attention, on remarque que chaque mouvement de cette symphonie semble émerger du contexte révolutionnaire. Par exemple, le deuxième mouvement, c'est une longue marche funèbre. Ça, c'était un genre qui était très répandu à l'époque et surtout dans la musique révolutionnaire française qui soulignait les héros morts avec ce genre de marche funèbre-là. Et puis, dans le quatrième mouvement, on entend des variations sur un thème que Beethoven avait déjà utilisé dans quelques autres œuvres par le passé, dont son ballet « Les créatures de Prométhée ».
Ça vaut la peine de dire ici qui est Prométhée. Prométhée, c'est un titan dans la mythologie grecque, et c'est vraiment un personnage qui intéresse beaucoup les penseurs du siècle des Lumières parce que c'est le titan qui a volé le feu aux dieux pour le donner aux hommes. Donc on voit là toutes les valeurs d'humanisme puis le bouleversement de l'ordre établi, ça se rejoint tout ça.
Prométhée agit comme une métaphore puissante de l'époque des Lumières, avec ses idées de progrès universel, d'égalité, d'amélioration de la condition humaine. C'est une philosophie en laquelle Beethoven croyait très fort. Il a vu en Napoléon le représentant d'une Europe nouvelle qui était gouvernée par le peuple et non par les rois. Et c'est donc à Napoléon que Beethoven a dédié sa troisième symphonie.
Mais on s'entend, là. Napoléon, c'est pas la démocratie incarnée. Il s'est quand même proclamé empereur.
Oui, ça a été un désenchantement immédiat pour Beethoven. Il était fou de rage et donc, il a donc rayé de sa partition la dédicace à Napoléon, si fort qu'il en a même déchiré le papier. Deux ans plus tard, quand la partition est finalement publiée, elle s'intitule « Symphonie héroïque », composée pour célébrer le souvenir d'un grand homme.
C'est un peu passif-agressif hein, comme dédicace. Malgré le fait que Bonaparte l'a déçu, on sent quand même que Beethoven n'a pas perdu sa foi en l'humanité dans la troisième symphonie. On sent qu'il croit qu'il va y en avoir un héros pour l'humanité. À la fin du premier mouvement, là, très clairement, il y a une victoire. On sent l'humanisme du siècle des Lumières qui l'emporte sur l'adversité.
Thank you.
on parle d'adversité. Beethoven lui-même, dans sa vie personnelle, il y en a eu pas mal de l'adversité, il en a vaincu des obstacles. Le premier auquel on pense, évidemment, c'est sa surdité. C'est quand même un obstacle majeur pour un compositeur que d'être sourd. Comment est-ce qu'il réussit à composer sa musique malgré son handicap?
En fait, on pourrait dire que c'est presque grâce à ce handicap que Beethoven a composé ses symphonies et ses chefs-d'œuvre. Parce qu'au début de sa carrière, Beethoven désirait être un pianiste virtuose. Mais c'est le fait de ne pas pouvoir continuer dans cette voie-là à cause de sa surdité qui a été très décourageant pour lui d'abord. Mais ça va aussi le pousser à s'orienter davantage vers la composition. Il faut savoir que la perte d'audition chez Beethoven arrive graduellement. C'est au début de la trentaine que ça le frappe psychologiquement de plein fouet. En 1802, pendant qu'il est en train de composer sa deuxième symphonie, il va se rendre à Heiligenstadt, qui est un village juste au nord de Vienne. C'est là qu'il va écrire une lettre très marquante à ses frères qui a été découverte après la mort de Beethoven et qui est devenue depuis célèbre. Il écrit dans cette lettre-là qu'à cause de sa maladie, il a dû s'isoler puis vivre dans la solitude. Et puis, il explique que ces événements-là l'ont poussé au désespoir, qu'il a même pensé à mettre fin à ses jours. Mais à la fin, il explique que c'est l'art, puis le sentiment de devoir créer, qui l'a définitivement convaincu à poursuivre.
Ça veut dire qu'au moment où il compose sa symphonie héroïque, Beethoven n'est pas seulement en train de lutter contre la maladie, contre sa surdité, là, il est en train de lutter contre une dépression. C'est fou, là. Ça, d'une certaine façon, c'est lui le héros. Il y a une autre information qui est quand même intéressante à propos de cette symphonie-là, et c'est le fait qu'elle dure 50 minutes. C'est quand même deux fois plus long que les plus longues symphonies de Haydn ou que Mozart. Ça peut sembler anodin, là, mais est-ce que ça aussi, ça fait partie de la révolution que Beethoven apporte en musique?
Bien, l'amplification des dimensions de la forme classique, c'est à coup sûr une des révolutions et une des contributions les plus importantes de Beethoven. C'est un compositeur qui a poussé les formes à leurs limites. Le développement des thèmes est beaucoup plus élaboré qu'avant et il ajoute des longues codas à la fin de ses mouvements, comme pour prolonger le discours musical, en fait, comme pour être sûr d'avoir tout dit ce qu'il avait à dire. Puis d'ailleurs, sa 5e et sa 6e symphonie ont été créées en décembre 1808, lors d'un même concert qui durait plus de 4 heures. Il y avait aussi dans ce concert-là un concerto pour piano, sa fantaisie chorale, des extraits de sa messe et même un aria.
C'est tout un programme, là, quand même. 4 heures de musique, là. C'est étonnant aussi que ces deux symphonies-là aient été créées le même soir, parce que quand on y pense, là, ces deux symphonies qui sont tellement différentes, la 5e est hyper dramatique, la 6e est d'un calme et d'une sérénité. Là.
Oui, la 5e, c'est de loin la plus célèbre des symphonies de Beethoven, avec son rythme absolument impitoyable. Mais dans le dernier mouvement, Beethoven se tourne du mode mineur au mode majeur. C'est comme s'il y a tout d'un coup une lumière éclatante qui célèbre encore une fois le triomphe de l'héroïsme contre l'adversité. Et depuis Beethoven, en fait, plusieurs compositeurs ont utilisé cette même progression du mineur au majeur, qui est très, très dynamique en soi. Puis pour ce qui est de la 6e symphonie, là, on est dans une célébration de la nature. Il y a 5 mouvements qui évoquent chacun divers aspects de la vie à la campagne. Dans ce temps-là, les citadins, comme Beethoven, aimaient beaucoup les séjours dans la nature et ils s'en inspiraient dans toutes les formes d'art. Beethoven n'est donc pas le premier à avoir fait ce genre de peinture sonore-là à l'orchestre. Mais cette symphonie-là a beaucoup contribué à faire le pont entre la musique abstraite et la musique à programme, qui va devenir très populaire pour la génération suivante.
Tu parles de peinture sonore. Est-ce que tu pourrais nous donner des exemples de la façon dont Beethoven va peindre la nature dans cette symphonie-là?
Oui, par exemple, dans le deuxième mouvement, on a une représentation d'une scène au bord d'un ruisseau. Puis à la fin du mouvement, on entend clairement le chant de trois oiseaux, le rossignol, la caille et le coucou.
Ils sont même écrits dans la partition, si je ne me trompe pas.
Oui, Beethoven les indique même dans la partition. Dans le mouvement suivant, on se retrouve avec des paysans qui dansent. Mais leur musique va être soudainement interrompue par un orage qui éclate. C'est un des passages les plus évocateurs de toute la musique de Beethoven. On entend la pluie, le vent, les éclairs, le tonnerre. L'orage s'éloigne éventuellement, puis Beethoven va enchaîner avec un dernier mouvement qui déborde de joie et d'optimisme. C'est le soleil après la pluie.
Puis c'est vraiment un enchaînement qui se fait sans pause entre les deux mouvements aussi. Dans la 5e et la 6e symphonie, Beethoven y enchaîne directement les deux derniers mouvements. C'était vraiment inusité à l'époque. Encore aujourd'hui, quand on vit ça en concert, ça crée une ambiance vraiment particulière, vraiment spéciale. Est-ce que le public à l'époque avait bien réagi à cette nouveauté-là?
Oui, absolument. Peu de temps après leur création, il y a un critique allemand très célèbre, E.T.A. Hoffmann, qui a décrit Beethoven comme un génie. Et ce que Hoffmann admirait en particulier, c'était le soin extrême que Beethoven apportait à la structure de ses œuvres. Et Beethoven va même recevoir une rente annuelle à vie offerte par trois riches nobles. Donc ça va lui permettre d'être sans grande préoccupation financière, mais surtout de composer comme il veut et donc de continuer à atteindre un niveau d'originalité à la mesure de son ambition.
C'est vraiment exceptionnel comme condition pour composer à l'époque.
C'est vrai. Pendant un certain temps, parce que Beethoven n'est quand même pas à l'abri des problèmes. Un de ses riches donateurs va mourir, il doit se battre pour la garde de son neveu et sa santé se dégrade. Après sa 8e symphonie, Beethoven est devenu totalement sourd.
Malgré tout ça, malgré tous ces obstacles-là, il continue à composer puis il pousse toujours plus loin l'innovation.
Mais pendant ces années-là, son style va changer beaucoup. Sa musique va devenir plus difficile, autant à jouer qu'à écouter. C'est comme si Beethoven est de plus en plus isolé et en rupture, d'une certaine façon, avec son public. Par exemple, en 1819, un certain Anton Diabelli va demander à plusieurs compositeurs d'écrire une variation sur une valse. Beethoven en écrit 33. Et à la même époque, il va également composer sa gigantesque Missa Solemnis. Mais la pièce est trop longue pour pouvoir servir dans un contexte religieux. Donc c'est dans ce contexte-là, d'innovation sans bornes, que Beethoven compose sa 9e et dernière symphonie. C'est une œuvre qui va vraiment marquer l'apogée de toutes ses expérimentations et de sa philosophie. Bref, C'est une symphonie révolutionnaire sous tous les angles.
L'aspect qu'on connaît le plus de cette 9e symphonie de Beethoven, c'est qu'elle se termine par un grand chœur, l'hymne à la joie. C'est une des mélodies les plus célèbres de l'histoire de la musique. On l'a entendu dans de très nombreuses publicités, de très nombreux extraits de films. Mais aussi, son texte porte un message qui a été au cœur de beaucoup des œuvres de Beethoven. C'est un texte du poète Schiller, et ça parle de joie, de fraternité universelle. Donc, jusqu'à la toute fin de sa vie, Beethoven continue à croire au grand projet des Lumières.
Oui, c'est aussi une sorte de testament musical pour Beethoven. Parce qu'on peut voir dans cette symphonie-là comme un répertoire des formes et des styles musicaux qui étaient les plus chers à Beethoven, en passant du caractère léger au caractère sérieux. On va entendre dans le dernier mouvement un récitatif d'opéra, des variations, une double fugue et même une marche turque avec triangle et cymbales. Ici, son génie, c'est d'avoir accompli une unité formelle à partir d'éléments qui sont apparemment disparates. Puis tout ça, en utilisant un thème qui est d'apparence toute simple, l'hymne à la joie.
C'est un peu pour ça que 200 ans plus tard, la musique de Beethoven continue à nous toucher autant. C'est parce que c'est un mélange de beauté, de profondeur, de simplicité très, très accessible pour le public, mais aussi de complexité qui fait qu'on les réécoute sans jamais se lasser, sans jamais s'en tanner. Il y a toujours quelque chose à redécouvrir dans sa musique. Je te remercie beaucoup, Tristan, pour toute cette introduction aux symphonies de Beethoven.
Bien, merci à toi, Andréanne. On a juste eu le temps de discuter de quelques-unes de ces symphonies-là, mais je pense que la meilleure introduction aux symphonies de Beethoven, c'est de les écouter.
Je suis tout à fait d'accord, et c'est ce qu'on va faire pendant le marathon Beethoven. On se voit là-bas. Bon marathon!
Bon marathon!